c'est l'épisode numéro 20. On est bientôt à la fin de l'année, j'ai commencé ce podcast en début d'année. Je suis du coup très contente d'avoir réussi à enregistrer, à publier une vingtaine d'épisodes cette année, à une fréquence pas toujours très régulière, mais assez authentique, puisque ça, c'était aussi au fil de mes envies, de mes possibilités, de mes inspirations, de mes moods et toutes les choses que j'ai vécues cette année. C'est pas encore l'heure du bilan, mais cet épisode représente pour moi quand même une sorte de milestone. Du coup, voilà, je suis très contente. Aujourd'hui, on va parler thérapie, parce que ce matin, j'ai contacté une thérapeute qui, j'espère, va m'accompagner pendant au moins un an d'une façon régulière. Et je me suis dit que c'est l'occasion aussi de partager avec vous un petit peu mon expérience avec la thérapie. Aussi parce que la dernière fois où j'en ai parlé, c'est pas ici mais dans un autre contexte, ça avait intéressé énormément de monde là où j'étais, et je m'attendais pas à ce que ça puisse parler à autant de gens, notamment quand j'ai parlé de thérapie énergétique. Du coup, j'étais agréablement surprise et je me suis dit que du coup l'épisode du podcast où j'avais parlé des énergies, c'était le deuxième épisode qui fait partie des épisodes où qui a connu le plus d'écoute. Du coup, je me suis dit en fait que finalement c'était pas une coïncidence, c'était peut-être finalement pas juste parce que le podcast venait de se lancer et que les gens étaient curieux et curieuses, mais que finalement c'est peut-être un sujet qui intéresse vraiment les gens et pas uniquement sur internet, puisque j'ai eu l'occasion d'expérimenter ça dans la vraie vie, et les gens étaient tout autant intrigués, intéressés. On avait eu des discussions super intéressantes. Du coup, voilà, aujourd'hui on va parler de ça, de la thérapie. Ma première thérapie, c'était à 25 ans ou à 26 ans. C'était dans ces eaux-là. Je suis désolée parce que je suis enrhumée depuis quelques jours et ça s'entend à ma voix. Du coup, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Cette première expérience, c'était avec une psychologue que j'avais trouvée sur Internet et qui se trouvait pas trop loin de mon bureau du moment. Je ne me souviens pas très bien de comment m'était venue l'idée ou l'envie ou le besoin d'aller consulter une psychologue. Je me rappelle maintenant de notre échange au téléphone. Elle m'avait demandé justement ce qui me poussait à vouloir aller la voir et ce que j'attendais d'elle. Et je ne savais pas trop, j'avais du mal à exprimer ça. Je savais juste que j'avais besoin de voir une psy. Je me rappelle aussi que j'avais envie de voir une psychologue parce que j'avais l'impression de ne pas vivre. Maintenant, avec les années qui ont suivi, je me rends compte que j'étais consciente que je ne vivais pas de façon consciente, que je n'étais pas présente. Mais je n'avais pas les mots à l'époque pour l'exprimer et l'expliquer. Je savais juste que pendant très longtemps, j'avais l'impression de passer à côté de ma vie, pas dans le sens où je passais à côté de mes rêves ou que j'arrivais pas à réaliser mes rêves ou mes ambitions. Non, c'est pas ça. Avec ça, il n'y avait pas trop de problèmes. Je pense que j'ai toujours été une personne assez pragmatique, mais c'était plus sur un volet un peu plus émotionnel, où j'avais l'impression que... Aujourd'hui, en fait, j'arrive à l'exprimer mieux qu'à l'époque, mais je vivais un peu trop dans mon imagination, je regardais pas trop les gens dans les yeux, et pas uniquement les gens, mais même je savais que moi-même, je ne me regardais pas dans les yeux et que je n'affrontais pas beaucoup de choses qui n'allaient pas. Voilà. Et moi, à l'époque, je savais juste qu'il y avait quelque chose qui ne va pas et que j'avais besoin d'être accompagnée pour pouvoir justement extérioriser ça. Même si à l'époque, encore une fois, j'étais pas forcément capable d'exprimer ça comme ça, je sais juste que j'avais une image en tête. C'était celle d'une personne qui marche dans sa vie, qui parcourt sa vie en fait en frôlant, comment on dit ça? Quand tu marches en fait à côté du mur. Et j'avais l'impression que c'était ça. Que je marchais pas. J'étais clairement pas le personnage principal, the main character de ma vie, comme on dit aujourd'hui, mais que j'étais plutôt un personnage secondaire effacé dans ma propre vie. Enfin, bref, c'était assez compliqué à expliquer, c'était assez abstrait dans ma tête, mais je savais juste que je devais faire face à certaines choses, mais que je n'y arrivais pas et que voilà, je n'avais pas du tout le courage. Et en même temps, ça me dérangeait et je voulais pas, voilà. Je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, bref. Donc, c'était avec cette problématique assez abstraite que j'avais consulté. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que je trouvais déjà que c'était cher pour moi à l'époque. Je démarrais ma carrière, donc j'avais pas forcément un salaire qui me permettait de payer des séances chez la psy une fois par semaine ou deux fois par mois. Et aussi parce que au final, j'ai fait avec elle, je crois, 4 ou 5 séances, quelque chose comme ça. Et c'était assez intéressant. C'était en fait les séances classiques où je partais chez la psy dans son cabinet pendant ma pause déjeuner entre midi et 2 où je m'installais. Voilà, je parlais pendant 1 heure, je crois, ou 45 minutes, je me rappelle plus. C'était un bureau très très minimaliste, il y avait rien du tout, il y avait un bureau, une chaise et une dame. Et je me rappelle qu'à l'époque déjà, je trouvais ça douteux et bizarre parce qu'elle n'avait même pas son diplôme accroché quelque part et voilà, et même sa salle d'attente était vraiment dans, il y avait vraiment le minimum quoi. Et pendant nos séances, je me rappelle que après la première séance, je me suis sentie très bien. Je me suis sentie vidée, je me suis sentie légère et j'avais beaucoup d'appétit. Elle m'avait déjà averti que ça va pas être le cas pendant toutes les séances et qu'il va y en avoir certaines où je vais pleurer, où ça va être difficile, où j'aurais pas envie de revenir, tout ça. Je me rappelle plus très bien de quoi on a parlé. Je me rappelle de ce qui m'a dérangée et qui a fait que, au final, j'ai arrêté, c'est que je me suis sentie jugée. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais déjà ma chaîne YouTube et je venais de commencer, je pense, à quelques mois ou 1 an ou 2 sur YouTube. Et je pense que forcément, je lui ai parlé des livres. Et elle avait mis le doigt dessus, et notamment par rapport à la quantité de livres que j'achetais, qui était énorme. C'était le cas pour la majorité des personnes qui avaient des chaînes YouTube qui parlaient de livres. On achetait beaucoup de livres par mois. Et je pouvais en acheter même jusqu'à, je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine. Je sais qu'il y a des mois où je craquais comme ça. Et elle avait forcément, peut-être, probablement, je ne sais pas, à raison, mis le doigt dessus en disant que, en se doutant que voilà, que ça cachait quelque chose ou que ça venait répondre à un autre manque, voilà. Et c'est pas ça qui m'a dérangée. Ce qui m'a dérangée, c'est que je me suis sentie jugée parce que elle jugeait, enfin, c'est comme ça que je l'ai perçue, elle jugeait le genre de livre que je lisais. Et ça, je m'en rappelle très bien. Elle m'a dit, et moi, à l'époque, je lisais beaucoup de Chick-lit, de Sophie Kinsella, L'accro aux Chopines, voilà, je lisais de tout. Je lis toujours de tout, mais à l'époque, voilà, je lisais pas mal tout ce genre de livres-là, de romans. Et je me rappelle très bien, elle m'a dit, genre, ce sont les livres que tu lis. Et là, elle me dit, tu n'as jamais lu Steinbeck. Je me rappelle très bien de Steinbeck, parce que j'avais entendu parler de lui à l'époque, mais je ne l'avais jamais lu et je ne savais pas trop de choses sur cet auteur. Je l'ai lu depuis et voilà, maintenant, il fait partie de. J'ai Les raisins de la colère, c'est un des chefs-d'œuvre que j'ai pu lire. Mais elle était en mode, ah oui, mais tu lis pas Steinbeck, tout ça. Et je sentais voilà, que c'était dénigrant, quoi. Et que genre, elle, voilà, dans ses études, elle avait pu lire ces choses-là. Bon, déjà ça m'avait saoulée à l'époque, je me rappelle. Et après, ce qui m'avait aussi saoulée, c'est que elle voulait. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est qu'elle voulait me changer. Et moi, je n'avais pas envie d'être quelqu'un d'autre ou de. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire et c'était pas du tout ça mon objectif, moi, de ces séances-là. Mais elle a commencé à me donner des exercices, entre guillemets, à faire. Et c'était des exercices en mode allez, cette semaine, tu devras sortir. Sortir le soir, aller t'amuser, machin. Et moi, c'était pas du tout ce que j'avais envie de faire, hein, ni même si je le voulais, c'était pas possible du tout de faire ça. Et en même temps, je le voulais pas. J'étais une personne hyper introvertie, hyper solitaire, qui. Ce dont elle rêvait, c'était de retrouver ses livres après le boulot et de plonger dedans et de passer ses week-ends tranquillement avec ses livres. Et elle me donnait des exercices comme ça. Et du coup, ça m'a mis la pression. Ça m'a mis la pression. Et je pense que j'avais pas envie non plus de retourner la voir la semaine d'après en lui disant que ben, finalement, j'ai rien fait de ce qu'elle m'avait demandé. Ça, c'est aussi mon côté sérieuse, studieuse, première de ma classe. première de la classe. Voilà où, quand on me donne un devoir, je le fais et je le fais bien. Donc. Là, j'étais pas à l'aise et pas d'accord avec plein de choses. Mais c'était essentiellement ces raisons-là, en plus de des séances qui me coûtaient cher et qui finalement commençaient à aller pas du tout dans le sens que je voulais. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai arrêté comme ça d'un coup, sans même l'avertir ni rien du tout. Je suis plus revenue la voir. Il me semble qu'elle a pas du tout non plus essayé de me joindre et de m'appeler. Et maintenant, je me rends compte que, ben, au final, on n'a pas du tout discuté de ce qui me travaillait à l'époque. Je ne sais pas si elle s'en est doutée ou pas, si elle avait compris le besoin ou pas. Je sais que moi aussi, je n'étais pas capable, je crois, de bien exprimer les choses, je crois, parce que je ne me rappelle pas totalement de quoi on a parlé. Mais je me rappelle que, voilà, elle mettait le doigt sur des choses qui. Je pense que dans le fond, c'était un bon diagnostic, entre guillemets. Elle mettait vraiment le doigt sur les bonnes choses, mais le comment, je crois, l'approche, ça n'a pas du tout marché pour moi. C'était pas du tout. Ça m'a pas plu du tout. Voilà. Je pense que c'est plus le comment et comment elle s'y est prise. La deuxième expérience, c'était il y a 2 ou 3 ans, donc à 35 ans, je crois. Et là, c'était tout autre chose. C'était un moment, c'était une année où j'étais décidée à régler tous les soucis que j'ai avec moi-même et en moi-même. C'était vraiment une intention que j'avais posée, et la thérapeute, coach qui m'avait accompagnée avait beaucoup souligné ça aussi après pendant nos séances. Elle a beaucoup insisté sur l'importance de ma volonté qu'elle ressentait et qui pour elle était vraiment le critère qui a fait que la thérapie marchait. C'est que vraiment je voulais changer, c'est que vraiment je voulais guérir, vraiment je voulais m'attaquer à certains problèmes, à certaines problématiques, etc. La première fois, comment ça s'est passé en fait? La première fois, elle m'avait contactée pour me dire que elle était plutôt à la recherche de clients et tout. Et c'est une thérapeute et c'est aussi une amie, ancienne collègue, que j'appréciais déjà beaucoup, que je trouvais déjà très mature à l'époque et que je voyais déjà un peu comme une sorte de coach. Alors que c'était pas du tout son job dans la boîte, elle était dans totalement autre chose. Mais je me rappelle très bien que c'était une personne qui réussissait à me calmer et à me remettre les idées en place avec très peu de mots. Elle devait probablement très bien écouter, maintenant je me dis. Et donc elle m'avait appelée il y a 2-3 ans parce qu'elle recherchait des clients. Et moi je lui ai dit, ben, je peux être une de tes clientes déjà. Et on avait fait une première séance. Et les coachs, elle n'a pas fait d'études de psychologie ou psychiatrie, mais elle a fait plusieurs formations sur tout ce qui est énergie, guérison énergétique, analyse transactionnelle, je crois, ou c'était plutôt la PNL. Voilà. Et moi, j'étais partante. Je voulais aussi voir ce que ça va donner et tout. On avait fait une première séance à distance. C'était encore la période du Covid. Et donc, on a fait ça à distance en vidéo call. Et pour cette première séance, eh ben, je n'avais pas forcément un objectif. Je l'ai faite vraiment de façon aléatoire. Je voulais juste voir comment ça se passe et tout. Et au final, je n'avais pas du tout aimé. Ça m'avait rien fait du tout. J'arrivais pas du tout à me lâcher, à vivre le truc et à me laisser aller. Et en même temps, je trouvais que ça allait déterrer certaines choses que j'avais pas forcément envie de faire ressortir, quoi. Et j'étais pas sûre aussi que c'était la bonne chose à faire. D'ailleurs, je me rappelle encore très bien que pendant cette séance, j'avais surtout le sentiment que j'avais pas envie, c'est bizarre, mais que j'avais pas envie de me séparer de mes blessures, voilà, les choses qui n'allaient pas, j'avais pas envie de les laisser partir en fait. Comme si, au final, c'était ce qui me faisait aussi, c'était moi. Et que comme si j'allais me sentir vide si je laissais ces choses-là partir. C'était quelque chose qui m'avait assez étonnée. Et en tout cas, on a arrêté là. Et elle-même, elle était dans une démarche de... voilà. Il faut vraiment que tu le veuilles et tout. Et si tu décides d'arrêter, c'est toi qui décides et on arrête tout de suite, quoi. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Et quelques mois après, je l'ai contactée. Et cette fois-ci, c'était moi qui l'ai contactée parce que je savais sur quoi je voulais travailler. Et je savais quel était, en quelque sorte, le problème que j'avais envie de résoudre. Cette fois-ci, je n'avais pas envie de revivre les mêmes schémas qu'il y a quelques années. Et je commençais une nouvelle expérience que j'avais vraiment envie de réussir. Et où, au moins, j'avais pas envie que ça foire à cause de moi. à cause de mes peurs, etc. Et je voulais au moins... faire le maximum et donner vraiment le meilleur de moi-même pour que ça marche. Et du coup, voilà, j'avais bien défini le truc que je voulais régler. Et on a commencé à travailler dessus. On s'est mis d'accord du coup sur l'objectif. Elle m'a dit que ça devrait prendre une dizaine de séances. On a tout fait à distance. C'était, je ne me rappelle plus si c'était une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Peut-être que c'était une fois toutes les 2 semaines. Et ça durait 1 heure ou un peu plus. Je pense que ça durait entre 1 heure et 1 heure 30. Et avec elle, ça n'avait rien à voir avec la thérapie que j'avais faite avant avec une psychologue. La différence, ben déjà, elle n'était pas psychologue. Et la différence aussi, c'était qu'elle n'était pas intéressée par mon passé. Contrairement donc aux séances de psy où généralement on s'assoit et on commence à raconter notre vie, notre passé, notre enfance, notre machin. Elle, ça l'intéressait absolument pas. Il n'était pas question de ça. Elle ne me posait jamais la question et limite, elle ne me laissait même pas en parler, quoi. C'était pas le sujet. Le sujet, c'était la personne que tu es aujourd'hui et la personne que tu veux être. Et tout se concentre sur ces deux choses-là. La personne que tu es maintenant et celle que tu veux être. Et elle abordait ça, elle utilisait différents outils. Comme j'ai dit, énergie, PNL, coaching, des projections mentales. Et aujourd'hui, dans la formation que j'ai commencée il y a quelques semaines, la formation de coach, justement, on nous a demandé de suivre une thérapie et on nous a recommandé une personne qui n'est pas juste psychologue ou juste psychiatre, mais une personne qui utilise différentes approches et différents outils, notamment celle que je viens de citer, mais aussi de la psychanalyse, tout ça. Et du coup, avec Amel, c'est comme ça qu'elle s'appelle, on utilisait différentes approches. Et la principale, selon moi, et que j'ai le plus apprécié en tout cas, et qui m'a fait beaucoup de bien, c'était l'approche énergétique. En fait, on se voyait. Je me rappelle plus maintenant très très bien des étapes et des questions qu'elle me posait et tout. Mais je pense qu'elle me posait toujours la question de comment je me sentais en début de séance, à cet instant-là, comment je me sens. Et maintenant, avec le recul, je me dis que c'est une très bonne question. Ça paraît anodin, mais c'est la meilleure question à poser au début. De tâter un peu le terrain et de voir un peu, recenser un peu le mood de la personne, comment elle est, dans quel état elle se trouve. D'ailleurs, même dans la formation de coaching, on nous fait beaucoup ça. On le fait au moins une fois par jour. On nous met dans cette situation-là où on doit partager comment on se sent, comment on se sent aussi par rapport à ce qu'on a appris le matin ou la veille. Et aussi à partager avec le groupe si on a vécu quelque chose pendant les dernières heures et qui risque d'impacter le groupe en fait. Et du coup, ou alors qu'on juge importante à partager avec ces personnes-là parce que voilà, ça nous a affectés. Et juste pour que les personnes comprennent aussi dans quel état on est. Et Amel, elle me posait toujours cette question au début, comment tu te sens? Et c'est pas une question facile parce que la plupart du temps c'est ça va ou je sais pas où on est où j'ai été assez maladroite en fait dans mes réponses à cette question, bref. Et la séance c'était essentiellement donc ça commençait comme ça et puis elle était capable d'évaluer mes énergies, même à distance, de savoir énergétiquement comment je suis. Est-ce qu'il y a trop d'énergie négative en moi, ce qui arrive assez souvent, elle trouvait ça assez souvent. Ou est-ce que voilà, mes chakras sont plutôt équilibrés. Bon, Là, je l'ai compris après avoir moi-même suivi une formation, mais à l'époque, je comprenais juste qu'elle était capable de sentir, c'est comme si elle était capable de ressentir comment moi je me sens. Mais en fait, elle était juste capable d'évaluer mon état énergétique et de savoir comment je suis de façon globale et même de façon assez précise, puisqu'elle arrivait à deviner là où il y avait un certain déséquilibre. Pour les personnes qui s'y connaissent un petit peu, il y a 7 chakras principaux et chaque chakra est relié à plein de choses. Et chaque chakra, il est relié soit à des organes, soit à certaines capacités vitales en nous. Et donc, quand il y a un déséquilibre quelque part, ben, c'est forcément lié à d'autres choses et ça a forcément certaines conséquences. Par exemple, il y a un chakra, s'il est déséquilibré, ben, il y a des chances que tu aies un problème de foie ou que, je ne sais pas moi. Voilà, des choses comme ça. Ou même autre chose, le chakra du cœur, Anahata, j'imagine s'il est déséquilibré, ben, il y a un souci avec les émotions, par exemple. Voilà, des choses comme ça. Et donc, elle faisait aussi cette sorte de diagnostic à chaque séance pour voir un peu l'état des lieux et elle posait des questions aussi en fonction de ça. Et elle utilisait différentes méthodes. Et en fait, ce qui était cool, c'était comme si on avait une sorte de plan d'action. Et du coup, c'est là où on voit un peu l'approche coaching. C'est comme si on avait un plan d'action avec un objectif, des petits objectifs et tout, et qu'on faisait le suivi ensemble. Et qu'elle m'aidait à devenir cette personne que je veux être. Elle m'aidait déjà à la visualiser. En me demandant, par exemple, de fermer les yeux, tu prends une profonde inspiration, expiration, machin, et genre, imagine la personne que tu veux être, je ne sais pas moi, dans quelques mois, et puis dans quelques années, et imagine comment tu serais si tu n'avais pas cette peur que tu as aujourd'hui, et que tu veux traiter. Imagine que on l'avait déjà traité, elle n'existe plus. Tu ne l'as plus, comment tu seras? Et là, c'était à chaque fois, ça faisait un effet assez impressionnant parce que voilà, tout de suite, je m'imaginais vraiment très différente de comment j'étais à cet instant-là. Je m'imaginais toujours plus grande, beaucoup plus confiante, beaucoup plus charismatique. Je me sentais invincible, hyper forte. J'avais peur de rien et personne ni rien ne pouvait me faire même pas tomber, mais même pas me faire vaciller, quoi. Et c'était un super exercice. Et c'est une méthode qu'on utilise aussi dans les méditations, et c'est aussi quelque chose qu'utilise Sadhguru dans ses méditations. Il nous demande toujours d'imaginer, de nous projeter. Et c'est aussi finalement la méthode utilisée avec les manifestations aujourd'hui. Quand on te demande de manifester un état ou une situation, on te demande toujours de le formuler au présent comme si c'était déjà arrivé. Ne pas dire je veux, être riche ou j'espère que je vais pouvoir avoir l'argent pour faire telle ou telle chose ou réaliser tel ou tel projet, mais de toujours écrire ces intentions-là au présent, comme si c'était déjà le cas, en mode « je suis riche » ou alors « j'ai suffisamment d'argent pour faire ». Et je comprends tout ça, parce que bon, tout est dans le mental, et le mental, il a une capacité énorme, et que c'est un peu tout simplement utiliser cette comme on a cette capacité à imaginer le pire ou à se compliquer la vie maintenant parce que on a peur de ce qui va se passer dans le futur, En fait, notre mental, lui, il comprend pas ça. Pour lui, c'est comme si ce qu'on imagine est déjà arrivé, comme si c'est déjà arrivé maintenant. Et du coup, ça nous angoisse et tout. Et avec cette méthode, on essaie d'inverser, en fait, la donne. Ben, imagine, parce que si tu imagines en conjuguant au présent que tu as déjà obtenu ce que tu voulais, ben, pour ton mental, tu l'as déjà obtenu, en fait, et ça va activer toutes les énergies qu'il faut pour que ça arrive. Tout va être fait pour que ça arrive, parce que pour lui, c'est déjà arrivé, enfin. En tout cas, c'est une méthode qui est assez impressionnante, je trouve, et qui donne du résultat et qui fait déjà beaucoup de bien, parce que quand tu t'imagines, en fait, et tu t'imagines avec le plus de détails possible, tu imagines vraiment comment tu es, ce que tu portes, où tu es, avec qui tu es. Ça, c'est assez difficile pour moi, en tout cas, d'imaginer tous ces détails. Mais c'est vrai que quand tu le fais, bah pour ton mental, c'est comme si c'était déjà le cas, quoi. Je pense que c'est là où on se rend compte que vraiment le temps n'existe pas. Voilà, parce que pour notre mental, il n'existe pas. Il connaît pas le passé, le présent, le futur. Il connaît que le présent. Et du coup, c'est pour ça aussi que Sadhguru lui dit que voilà, il y a des gens, enfin, voilà, que tu vives dans ton pas trop dans le passé, dans les regrets, tout ça. Ou tu vis parce que tu as trop peur du futur. Voilà, pour le mental, c'est un peu voilà, il comprend pas ça. C'est un peu comme si tu étais toujours dans le passé ou que tu étais vraiment en train de vivre cette situation angoissante du futur, voilà. Donc elle utilisait ces méthodes-là et à la fin de chaque séance, elle faisait une sorte de nettoyage énergétique où elle nettoyait mes énergies. Et où elle enlevait tout le négatif à distance et ça marchait. Et j'adorais en fait comment je me sentais à la fin de ces séances. Je me sentais trop bien. Je me sentais vraiment, je me sentais pleine d'amour à chaque fois. C'était vraiment ça. J'étais d'une humeur beaucoup plus douce et vraiment empathique et avec beaucoup d'amour à donner. Voilà. Finalement, maintenant, je me rends compte que je pense que elle calmait aussi beaucoup ma colère. Je me rendais pas compte, mais maintenant, c'est ce que je vois. Et au final, mon problème a été limite résolu en 7 ou 8 séances avant les 10 séances. Je me rappelle très bien. Avant de commencer. C'est-à-dire que cette peur avait disparu, c'est ce que je veux dire. Et je me rappelle, pendant la première séance, je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais est-ce que ça veut dire que ça va être résolu pour la vie ou ça veut dire que ça risque de revenir en fait à un moment après la fin de nos séances? Et elle m'avait dit que non, ça va être résolu une bonne fois pour toutes. Maintenant, 2 ans plus tard, je ne sais pas si ça a vraiment été résolu une bonne fois pour toutes. Je pense que c'est encore là, la peur, elle est encore là. Mais la vie, de toute façon, elle a fini par me mettre dans une situation aujourd'hui où je vais devoir affronter cette peur d'une façon concrète, pas d'une façon abstraite. Parce qu'avant, c'est comme si je voulais anticiper. Que je me retrouve dans une situation où je vais m'imaginer certains scénarios, voilà, à cause de cette peur que j'ai, de façon inconsciente. Mais maintenant, je me suis retrouvée dans une situation où c'est pas dans mon imagination. Je vais effectivement être dans cette situation qui me faisait vraiment peur. Et ça m'a un peu saoulée, bien sûr. Je suis pas ravie d'être dans cette situation, mais en même temps, je suis en même temps très contente parce que pour moi, c'est un peu comme l'examen final. Ça va être vraiment l'examen où je vais voir est-ce que vraiment je vais réussir à la dépasser, cette fucking peur, ou pas. Et je vais la dépasser parce qu'il le faut et parce que j'estime que j'ai franchement fait énormément de travail, que j'ai énormément progressé par rapport à, pas seulement il y a 2 ans, mais même par rapport à toujours, parce que c'est une peur qui existe chez moi depuis l'enfance. Et là, franchement, normalement, a priori, j'ai tous les outils pour pouvoir la dépasser. Et au final, ben, peut-être que c'est ce qui, enfin, au final, peut-être que le process, c'est ça, hein, qu'il faut absolument qu'il y ait une épreuve que tu vas devoir vivre vraiment et gérer et réussir. Et après laquelle, c'est bon, cette peur aura, j'espère, disparu. Enfin, pas j'espère, enfin, oui, elle aura disparu, elle va disparaître, elle est en train de disparaître. pour pouvoir enfin passer à autre chose, voilà. Parce que, voilà, ça ne veut pas dire qu'une fois que ce problème est résolu, j'aurai plus aucun problème dans ma vie. Non, mais ça veut dire que je vais pouvoir passer à des challenges encore plus grands, voilà, et pas rester coincé, comme je dis toujours, dans cette boucle qui se répète encore et encore. Ne pas avoir à revivre cette même situation qui se répète dans ma vie à tous les, je ne sais pas, bon, la dernière fois où j'ai été dans cette situation, c'était il y a ben, presque 10 ans. Voilà, et donc 10 ans plus tard, je vais me retrouver dans la même situation, sauf que je ne suis pas du tout la même personne que celle que j'étais il y a 10 ans. Et qu'aujourd'hui, je ne suis pas non plus dans, c'est pas exactement les mêmes conditions, quoi. Voilà. Et il faut surtout que je maintienne ma méditation, mon Shambhavi. Parce que les jours où je fais ma méditation, c'est fou comment je peux être. C'est fou ce que ça change la donne pour moi. Vraiment, cette peur, elle, non seulement elle disparaît, mais elle redevient, enfin, elle redevient sensée. Elle n'est plus aussi exagérée qu'elle l'est les autres jours où je ne fais pas ma méditation, voilà. Et même que ça va au-delà de tout ça, c'est que non seulement cette peur devient sensée, mais c'est que même je deviens optimiste. Je deviens même optimiste et j'arrive à voir les bons côtés de cette fameuse situation qui, de façon générale, me plonge dans une sorte d'angoisse. Et donc voilà. Donc cette thérapie énergétique avec Amel, c'était franchement trop bien. C'est quelque chose que je pourrais refaire si jamais j'en ressens le besoin encore. Et c'est quelque chose vraiment qui fait beaucoup de bien. Qui m'a fait beaucoup de bien en tout cas. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, je vais avoir ma première séance de thérapie. C'est, encore une fois, là, c'est une personne aussi que j'ai trouvée sur Internet, que j'avais déjà repérée sur les réseaux sociaux il y a un petit moment, parce que je trouvais qu'elle avait une approche assez, qui me parlait déjà pas mal, parce qu'elle était assez connectée à la nature, à la terre, et moi, je suis élémentaire, et je me ressource vraiment avec la terre, avec les arbres, les forêts, les montagnes. Et donc, c'est une thérapeute qui est aussi sur Rabat, que j'ai contactée ce matin. Je lui ai présenté le contexte. Elle a dit que ça lui allait parfaitement, que voilà, ça rentrait dans ses cordes. Elle utilise aussi plusieurs méthodes. Je ne sais pas si elle est aussi orientée énergie, mais je sais qu'elle organise aussi des ateliers de méditation, tout ça. Donc, je vois qu'on a déjà pas mal de choses en commun, de valeurs communes, je ne sais pas, mais on parle un petit peu déjà le même langage. Donc j'espère que ça va bien se passer. C'est une thérapie qui va devoir m'accompagner pendant toute ma formation de coaching, au moins. une thérapie qui devra avoir lieu deux fois par mois, au moins, selon les orientations de nos coachs. Et en fait, c'est une thérapie qui vient nous accompagner, qui va nous aider en fait à encaisser en quelque sorte toutes les prises de conscience qu'on va avoir pendant la formation. Parce que la formation de coach, c'est énormément de travail sur soi-même. Parce que voilà, tu dois déjà, pour pouvoir accompagner les autres et aider les autres, il faut déjà que toi-même tu sois dans... En plus d'avoir les compétences, les outils, les approches, la théorie et tout ça, tu dois toi-même être une référence en quelque sorte en termes de bien-être, en termes d'équilibre mental, émotionnel. Tu dois déjà être bien en fait pour pouvoir accompagner les gens et aider les gens. Un coach ou une coach, voilà, qui... dont, je sais pas moi, les émotions et qui n'a aucun contrôle sur elle-même et où tout part en vrille, c'est pas très crédible et on n'a pas forcément envie d'être accompagné par une personne comme ça. Donc, c'est beaucoup de travail sur nous-mêmes. Et pendant la formation, en fait, on apprend beaucoup de choses sur soi. Et des fois, ça peut être assez difficile à encaisser, à accepter, à recevoir. Et du coup, c'est une condition pour pouvoir suivre cette formation, de se faire accompagner par un ou une thérapeute qui va nous aider justement à bien digérer toutes les choses qu'on va apprendre, notamment sur nous-mêmes, et qui va aussi nous permettre en fait de nous mettre de l'autre côté. Au lieu d'être les coachs, eh bien, on sera en quelque sorte les personnes coachées. Et du coup, j'imagine que ça va développer notre empathie aussi par rapport à la personne qui se fait accompagner. Et ça nous permettra aussi d'observer l'approche des thérapeutes et aussi d'apprendre d'eux et d'apprendre de s'inspirer d'eux, j'imagine. Et voilà, je suis sûre que ça va être une source d'apprentissage sous différents angles pour nous. Donc, voilà. Si jamais, peut-être je vous ferai un petit bilan de cette nouvelle expérience thérapeutique dans un an ou plus ou moins, j'en sais rien, mais en fonction de l'état d'avancement des choses et ce que j'en aurai appris surtout et que je jugerai intéressant à partager avec vous. Donc voilà. Je sais que la thérapie, c'est pas forcément quelque chose de... Je ne sais pas, je pense que c'est pas quelque chose de... En même temps, j'allais dire de commun ou de naturel vers lequel on va. Mais en même temps, c'est aussi quelque chose où, quand on s'y met, on a du mal à imaginer comment les autres font pour vivre sans thérapie, sans accompagnement mental, sans avoir quelqu'un à qui... pas juste à qui parler, mais qui va aussi nous aider à dépasser certaines choses. Après, ça ne veut pas dire qu'être thérapeute, c'est être une personne parfaite qui n'a aucun problème et être un saint ou une sainte. Pas du tout, mais voilà. En tant qu'être humain, je pense que la meilleure façon d'exister et la bonne façon, c'est de s'entraider les uns les autres et d'être là les uns pour les autres. Et la thérapie, le coaching, tous les métiers où on vient aider l'autre, d'ailleurs pas forcément un métier, mais les amitiés, toutes les relations qu'on peut avoir avec l'autre et où on est là pour l'autre, finalement c'est un peu notre raison d'être ou alors c'est le comment, c'est le how. C'est comme ça qu'on doit exister, moi j'ai l'impression. Sinon, on serait seul sur Terre. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'avoir l'autre. Mais l'autre, c'est à travers l'autre qu'on se voit, qu'on se comprend soi-même. C'est à travers l'autre qu'on comprend plein de choses sur soi, que c'est l'autre qui fait ressortir des choses sur nous. Voilà, c'est un peu notre miroir. Aussi, donc voilà, moi je suis contente de me lancer là-dedans. J'ai plutôt un bon feeling Mais j'attends quand même de voir la personne pour en apprendre davantage aussi sur elle. Parce que la thérapie, c'est aussi, je pense que c'est important aussi d'avoir une relation de confiance avec la personne. Pas uniquement une confiance sur ses compétences techniques, mais aussi sur elle en tant qu'humaine, qu'être humain. Donc voilà. Ressentir les vibes. Et ça, c'est des choses que des fois, c'est assez difficile de ressentir ça à distance. Ou avec un minimum d'échange, voilà. Donc, that's it for me. C'est mon expérience avec la thérapie. Ah, et je voulais aussi conclure en fait en parlant du fait que la thérapie, c'est pas forcément quelque chose de. Même si aujourd'hui c'est de plus en plus accepté, que c'est de plus en plus courant, que voilà, on ne voit plus, on ne dit. On n'a plus cette idée que la thérapie c'est pour les fous ou les folles ou les malades mentaux, ou voilà. Mais en même temps, dans une culture par exemple musulmane, je sais que, enfin, peut-être que des fois la thérapie ça peut être encore plus sensible parce qu'une personne par exemple qui déprime, ça peut être mal vu. La dépression dans l'islam, ça peut être mal vu des fois parce que ça peut être interprété comme si tu n'acceptais pas ton destin, donc tu n'acceptais pas la volonté de Dieu, tu n'acceptes pas le destin que Dieu t'a donné, par exemple, ou que la dépression, ça veut dire que tu n'as pas la foi, voilà, parce que tu n'acceptes pas ce que tu as, voilà, ta situation, je ne sais pas. Donc je sais que ça peut être aussi compliqué de ce point de vue-là et qu'il y a pas mal de. Que les maladies mentales étaient aussi tabous dans les cultures musulmanes par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a. Il y a pas mal de travail éducatif qui a été fait depuis par rapport à ça. Et je pense que que ça change et que. En tout cas, moi, j'entends plus. J'entends plus aussi souvent ce genre de discours. Et c'est tant mieux, mais bon, en même temps, j'entends pas non plus que dans mon entourage, il y a plein de gens qui sont en thérapie, pas du tout. Généralement, les personnes dans mon entourage qui sont assez familiers et familières avec ça sont des personnes qui sont coach elles-mêmes et qui suivent une thérapie, ou voilà. Donc, peut-être que cet épisode a participé à aller un peu dans ce sens, à démystifier un peu la thérapie. Et voilà, c'était en tout cas mes deux expériences pour l'instant. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci aux personnes qui ont participé au sondage sur Instagram la semaine dernière. Ça m'a beaucoup aidé par rapport au contenu qui vous intéresse et aux approches. Du coup, j'essaierai de faire davantage de storytelling et de partage d'expériences, mais aussi rester sur les thématiques spiritualité, santé mentale, tout ça. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, vous a intéressé, vous a peut-être donné une nouvelle perspective ou appris quelque chose de nouveau, ou voilà, juste détendu, pourquoi pas, et que vous aurez passé un bon moment avec. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.